de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Président Joko Widodo offre des primes aux athlètes des para-jeux de l'ASEAN. Tirant au sort de la Coupe du Monde U17, l'Indonésie entre dans le pot 1 avec le Brésil et deux anciens champions. BP2MI a demandé à la Corée du Sud d'ouvrir des opportunités pour PMI d'entrer dans le secteur agricole. BKSAP, de l'Agence de coopération interparlementaire de DPR-RI, apprécie l'ouverture de vols Bali et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Améliorer les programmes de formation pour les jeunes athlètes et les entraîneurs de tir dans toute l'Asie. L'économie bleue a le potentiel de devenir un nouveau moteur de croissance dans la région asiane. Mon cher directeur, voici les nouvelles en complet. Le président Joko Widodo a remis les primes aux athlètes des Jeux paralympiques de l'ASEAN dans la cour du palais Merdeka, Jakarta, lundi 3 juillet. Dans son allocution, le président Jokowi a exprimé sa gratitude pour les réalisations des athlètes lors de la compétition des Jeux paralympiques de l'ASEAN. Selon lui, les athlètes, les entraîneurs et les entraîneurs adjoints ont travaillé avec diligence pour rendre la nation fière dans cette compétition entre les pays d'Asie du Sud-Est. Aux Jeux paralympiques de l'ASEAN, l'Indonésie a réussi à remporter 158 médailles d'or, 148 médailles d'argent et 95 médailles de bronze, ce qui a fait de l'Indonésie la championne du classement général de la compétition. Pour cette raison, le gouvernement a accordé des bonus totalisant 320,5 milliards de roupies. L'Indonésie est dans le pot 1 pour le tirage au sort de la Coupe du Monde U17 2023. Outre le Brésil, le pot 1 est également occupé par deux anciens champions, à savoir la France et le Mexique. Comme cité par Compass lundi 3 juillet, pour le tirage au sort de la Coupe du Monde U17 2023, l'Indonésie en tant qu'hôte est confirmée pour entrer dans le pot 1 avec le Brésil, la France, le Mexique, l'Espagne et le Japon. Au total, il y a 24 pays répartis en 4 pots avec 6 pays dans chaque pot. Pour le tour préliminaire, les 24 équipes participantes qui ont été réparties en 4 pots seront tirées au sort, en 6 groupes avec 4 équipes dans chaque groupe. Chaque groupe sera composé de représentants des équipes des pots 1 à 4. En tant qu'hôte, l'Indonésie entrera certainement dans le groupe A. Auparavant, le président général de la PSSI, Erick Thohir, avait déclaré que le tirage au sort de la phase des groupes de la Coupe du Monde U17 aurait lieu à Jakarta en août. L'Agence indonésienne de protection des travailleurs migrants, BP2MI, a demandé au gouvernement sud-coréen d'offrir aux travailleurs migrants indonésiens des opportunités d'entrer dans les secteurs de l'agriculture et des plantations. Le chef de BP2MI, Benny Ramdhani, après la cérémonie de libération de 152 travailleurs migrants indonésiens en Corée du Sud, par le biais du programme de gouvernement à gouvernement, ou GAG, à Jakarta, dimanche 2 juillet, espère que des secteurs d'emploi supplémentaires pour les travailleurs migrants indonésiens pourront être immédiatement approuvés par le gouvernement sud-coréen afin d'augmenter les opportunités de travail à l'étranger. Il est également optimiste sur le fait que les travailleurs migrants indonésiens vers les pays de placement peuvent dépasser la réalisation de 2022 de 200 761 personnes, PMI. Auparavant, le ministre coordinateur de la politique du droit de la sécurité, Mahfoud MD, a déclaré que le placement des travailleurs migrants indonésiens en PMI par le biais du programme GAG était une coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays. Selon lui, en plus d'augmenter les devises pour les pays expéditeurs de main d'œuvre, ce régime peut également stimuler l'économie des pays d'accueil grâce à la contribution des travailleurs indonésiens dans divers secteurs. Le vice-président de l'Agence de coopération interparlementaire BKSAP, du Parlement indonésien, DPRRI, Putu Supadma Rudana, a apprécié l'ouverture de la route de Bali vers l'aéroport international de Jackson Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans un communiqué reçu à Jakarta dimanche 2 juillet, Putu espère que la présence d'une liaison aérienne de Bali à la Papouasie-Nouvelle-Guinée pourra améliorer les relations bilatérales entre les deux pays, relations de connectivité, économie, culture sociale, défense et sécurité, et surtout la sauvegarde de la souveraineté des deux nations. Il est également optimiste que cette connectivité pourra augmenter la croissance des secteurs de l'économie, du tourisme et de l'investissement. Il espère que la liaison aérienne Bali-Papouasie-Nouvelle-Guinée pourra contribuer à une augmentation du nombre de touristes étrangers à Bali. Le conseil d'administration de l'Association indonésienne des sports de tir et de charge, PB Perbakin, a organisé une formation pour les jeunes athlètes et entraîneurs intitulée 12th Asian Youth Training and Coaching Camp RIFAL au Senayan Shooting Range, Jakarta, du 2 au 11 juillet. Dans son allocution, le président du comité ainsi que le président quotidien de PB Perbakin, le brigadier général de l'armée nationale indonésienne, de la retraite Siswanto ont déclaré que 18 jeunes athlètes et entraîneurs des 11 pays d'Asie ont pris part à la formation. Outre l'Indonésie, cette activité a également réuni des athlètes et des entraîneurs du Timor oriental, Timor-Leste, de la Malaisie, des Philippines, de Singapour, du Vietnam, du Turkménistan, d'Iran, du Bhoutan, d'Oman et du Yémen. Le chef de l'Agence nationale de planification du développement, Bapena Suharto Manoarfa, a déclaré que l'économie bleue avait le potentiel de devenir un nouveau moteur de croissance dans la région de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN. Lors de l'événement du Forum de l'économie bleue de l'ASEAN 2023 à Tanjung Pandan, île Bangka Belitung, lundi 3 juillet, il a déclaré que bien que le produit intérieur brut PIB global de l'ASEAN est augmenté de 10,3% au cours de la période 2016-2021. L'utilisation du bleu comme source de prospérité n'a été réalisée que dans le contexte de la relance des économies de certains pays membres de l'ASEAN qui ont encore un statut de revenu moyen à faible. Il a ajouté que sous la direction de l'Indonésie dans l'ASEAN 2023, l'Indonésie s'est engagée à réaliser le cadre de l'économie bleue de l'ASEAN comme l'un des résultats économiques prioritaires en 2023. Selon lui, les mers de l'ASEAN représentent 2,5% de la surface de tous les océans. En outre, les eaux d'Asie du Sud-Est représentent 15% de la pêche mondiale et 625 millions de personnes travaillent dans les secteurs liés à la mer. Bonjour, Jouetard, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
C'est Jeter, bonsoir. Voici le commentaire dont le titre est « Des fusillades aux États-Unis font à nouveau des victimes ». Le dernier incident de tir s'est produit aux premières heures de dimanche 2 juillet 2023, heure locale à Baltimore, Maryland, États-Unis, faisant 2 morts et 28 blessés. Le département de police de Baltimore a répondu dimanche à minuit 35 à un appel de rapport de tir depuis la scène de crime. Antoine Acoulère a déclaré que lorsque la fusillade a éclaté, des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour célébrer l'événement connu sous le nom de Brooklyn Day. S'il est rétassé, ce qui s'est passé à Baltimore n'avait rien de nouveau. Aux États-Unis, les fusillades sont fréquentes et font de nombreuses victimes. Rien que cette année, 341 fusillades ont eu lieu aux États-Unis, faisant 418 morts, dont les auteurs, et 1393 blessés. Le nombre record de fusillades a eu lieu en mai, avec 84 fusillades qui ont fait 93 morts et 315 blessés. Il n'est pas surprenant qu'il y ait de nombreuses victimes, étant donné que la quantité de fusillades qui a eu lieu était également très grande. En fait, souvent dans une journée, il y a plus d'un incident. Par exemple, le 1er janvier 2023, il y a eu 7 incidents de tir qui se sont produits dans divers États. Gun Violence Archive, un groupe de recherche à but non lucratif qui a examiné les fusillades et leurs caractéristiques dans les États-Unis, ce que l'on entend par fusillade de masse est un incident de fusillade dans lequel 4 personnes au plus au même endroit sont victimes de coups de feu. De nombreux experts disent que l'accès facile aux armes à feu pour les résidents des États-Unis est le coupable. Le professeur criminologue de l'Université d'Alabama, Dr. Adam Langford, a déclaré que les États-Unis sont le pays avec le plus de cas de fusillade au monde. En fait, dit-il, 30% des fusillades de masse se produisent aux États-Unis. Un certain nombre d'experts ont également estimé que la faiblesse de la loi sur la possession d'armes à feu aux États-Unis était la cause du problème. Surtout aux États-Unis, les armes à feu sont faciles à obtenir. Ils peuvent être achetés dans des magasins, des expositions et même vendus en ligne. Tandis que les facteurs déclenchants peuvent être de différentes natures, à partir des facteurs économiques, des relations sociales au travail. Le FBI dit qu'en 2021, 98% des auteurs de tirs de masse seront des hommes. Au vu de la tendance récurrente et des nombreux facteurs de causalité et déclencheurs, il est bien sûr encore très difficile d'espérer que l'incident sanglant sera arrêté ou du moins supprimé de manière significative. Il semble que le gouvernement américain doive immédiatement revoir la loi relative à la possession d'armes à feu. De nombreuses parties ont appelé à des restrictions strictes, voire à une interdiction de la libre possession d'armes à feu. Mais bon nombre d'entre eux ont également insisté pour le soutenir au nom de la liberté et de l'autoprotection. Il y a toujours du pour et du contre dans chaque problème. Cependant, le grand nombre de vies perdues en vain en raison de l'accès facile à la possession d'armes, bien sûr, devrait être une considération urgente. C'est Jolie Talk, c'était le commentaire pour ce soir.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 ans, enregistrement dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'histoire d'aujourd'hui. Avec moi Audrey, nous allons commencer l'histoire d'aujourd'hui avec le 3 juillet 1920, création de l'Institut de technologie de Bandung. Chargé de tard le 3 juillet 1920, l'Institut de technologie de Bandung, ITB, a été fondé sous le nom de Technische Hochschule de Bandung, ou communément abrégé en TH de Bandung, établi. TH de Bandung et le premier collège technique ainsi que le premier établissement d'enseignement supérieur des Andes orientales néerlandaises. À cette époque, il n'y avait qu'une seule faculté, à savoir la Faculteit van Technische Wetenschap, et un seul département, à savoir de Afdeling der Wigen Waterbouw. La création de ce collège visait à répondre à la demande de personnel technique de plus en plus limitée pendant la période coloniale néerlandaise en raison du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Nous continuons avec l'événement du 3 juillet 1922, fondation de Taman Siswa. Ce jour tard, 3 juillet 1922, Ki Hajar Dewantara a fondé Taman Siswa à Yogyakarta, qui est devenu le premier établissement d'enseignement moderne en Indonésie. Lors de sa création, Taman Siswa a été nommé National Underwish Institut Taman Siswa. Taman Siswa apportait les principes du Triloka Patrap, qui jusqu'à présent a servi de guide dans le monde de l'éducation indonésienne. Le patrap du Triloka consiste en Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madhya Mangun Karsa et Tut Wuri Andayani, ceux qui ont du sang, qui devant donnent l'exemple, qui au milieu construisent des initiatives et par derrière soutiennent. Chers amis, nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec le 3 juillet 2011. Yingluck Shinawatra remporta les élections thaïlandaises. Le 3 juillet 2011, des élections générales ont eu lieu en Thaïlande. À cette époque, Yingluck Shinawatra a réussi à vaincre le premier ministre thaïlandais Abhisit Vejjajiva. La victoire de Yingluck du parti peu Thaï a été confirmé après le dépouillement de 94% des bulletins de vote. Le parti de Yingluck a remporté 261 sièges sur 500 au Parlement. Au contraire, le parti démocratique d'Abhisit n'a remporté que 162 sièges. En août 2011, Yingluck Shinawatra a officiellement prêté serment en tant que Premier ministre de Thaïlande. Yingluck est la première femme Premier ministre de l'histoire de la Thaïlande. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Sixième antenne pour l'arbitre suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est « Le ministre Bahlil demande au FMI de ne pas s'impliquer dans les questions en aval ». Le ministre de l'Investissement, en tant que chef du Conseil de coordination des investissements, BKPM, Bahlil Hadalia, a demandé au Fonds monétaire international, FMI, de ne pas interférer avec les politiques du gouvernement indonésien concernant l'interdiction des exportations de produits de base et en aval. Dans un communiqué de presse à Jakarta vendredi 30 juin, il a déclaré que le gouvernement indonésien appréciait les vœux et les recommandations du FMI concernant la croissance macroéconomique d'Indonésie. Cependant, selon lui, le FMI a imposé un double standard en soutenant des objectifs en aval, mais en s'opposant à la politique d'interdiction des exportations. Le ministre Bahlil a expliqué l'évaluation du FMI concernant les pertes qui subirait le gouvernement indonésien si la mise en œuvre de la politique d'interdiction des exportations n'était inappropriée. Selon lui, avec un aval, la création de valeur ajoutée est très élevée pour l'Indonésie. Il a donné un exemple, les exportations de nickel en 2017-2018 n'ont atteint que 3,3 millions de dollars américains. Ce montant est passé à près de 30 millions de dollars américains lorsque l'Indonésie a arrêté les exportations de nickel et a procédé à l'aval. En outre, le ministre a expliqué que l'aval a fait de la balance commerciale de l'Indonésie en excédent pendant 25 mois consécutifs. En outre, depuis la mise en œuvre de la politique en aval, la croissance de la main d'œuvre dans le secteur en aval a atteint chaque année 26,9% au cours des 4 dernières années. Par conséquent, le ministre Bahlil Hadalia a souligné que les politiques en aval et les interdictions d'exportation de produits de base étaient toujours appliquées par l'Indonésie. Selon lui, l'aval n'était pas seulement une question de valeur ajoutée, mais aussi liée à la souveraineté de la République d'Indonésie. Auparavant, le Fonds monétaire international FMI avait donné son avis sur la politique d'interdiction des exportations contenue dans un rapport intitulé Le conseil d'administration du FMI conclut une consultation de 2023 au titre de l'article 4 avec l'Indonésie qui était publié lundi 26 juin. Les trois points soulignés par le ministère de l'Investissement sont le FMI reconnaît que la croissance économique de l'Indonésie est supérieure à 5%, reconnaît que les investissements étrangers en Indonésie continueront d'augmenter et de croître d'environ 19% et soutient les objectifs en aval d'Indonésie pour encourager la transformation structurelle et la création de la valeur ajoutée en s'opposant à la politique d'interdiction des exportations. C'est Jurita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Sejurita, la kaskat Hiang Darungan est administrativement située dans le village de Bokemi, le district de Krucil, la résidence de Probolinggo, Jawa Oriental. Pour vous rendre à cette attraction touristique, il vous faut environ une heure depuis Probolinggo en utilisant les transports en commun jusqu'à Bokemi. Ensuite, de l'entrée touristique de Bokemi à la cascade, il faut environ 2 heures de marche. Le trajet de l'entrée à la cascade n'est pas facile, car la route est pleine de pentes, raides et boueuses. La route est sur la forme d'un sentier assez étroit et ne peut être parcourue que par une personne. De plus, vous devez également traverser des rivières et des rochers. Le voyage est en effet assez fatigant. Il faut donc une endurance supplémentaire pour atteindre ce lieu touristique. Ces auditeurs, à l'emplacement de la cascade Yangdarungan, il y a deux cascades tout aussi belles, l'une au-dessous et l'autre en dessous. Ces deux cascades coulent de l'eau froide et fraîche. La cascade en contrebas a une hauteur d'environ 15 mètres. Dans cette cascade, vous pourrez vous baigner librement tout en profitant de la fraîcheur apportée par la cascade Yangdarungan. Pour la cascade au-dessous, il faut encore marcher environ 500 mètres depuis la cascade au-dessous. La vue présentée par la cascade au-dessous est certainement plus belle que l'autre cascade. Pour la cascade au-dessous, il faut encore marcher environ 500 mètres depuis la cascade au-dessous. La vue présentée par la cascade ci-dessous est certainement plus belle que l'autre cascade. Cette cascade a une hauteur d'environ 20 mètres avec une étendue de rochers en dessous. Les touristes peuvent également se baigner et nager sous cette cascade pour sentir la fraîcheur et le paysage naturel enchanteur. C'est Jurita, c'était notre programme, le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
yang sama.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Festival Pesona Mentawai. Festival Pesona Mentawai signifie le festival d'enchantement Mentawai. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Mereka sangat pemberani. Je répète, Mereka sangat pemberani signifie ils sont très courageux. Cette conversation a eu lieu entre Chris George Robinson, un vlogger australien et une guide touristique sur l'île de Siberut, île Mentawai. Chris a exprimé ses sentiments sur le caractère d'un jeune pratiquant le tir à l'arc au festival de tir à l'arc traditionnel de Mentawai. Écoutons la conversation.
Mereka memakai busur panah tradisional Mentawai.
Mereka sangat pemberani. Busurnya saja setinggi tubuhnya.
Iya, anak-anak itu berlatih memanah untuk berburu sejak kecil.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Mereka sangat pemberani. Mereka sangat pemberani signifie ils sont très courageux. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez la répéter après moi. Mereka. Mereka signifie il. Sangat pemberani. Sangat pemberani signifie très courageux. Mereka sangat pemberani. Mereka sangat pemberani signifie ils sont très courageux. Busur panah. Busur panah signifie arbalète. Traditionnel. Traditionnel signifie traditionnel. Setinggi tubuhnya. Setinggi tubuhnya signifie haute que sa taille. Anak-anak. Anak-anak signifie les enfants. Berlatih. Berlatih signifie pratique. Memanah. Memanah signifie tir à l'arc. Berburu. Berburu signifie chasse. Sejak kecil. Sejak kecil signifie depuis l'enfance. Dans la conversation, vous entendez la phrase Mereka sangat pemberani. Je répète, Mereka sangat pemberani signifie « ils sont très courageux ». Cette phrase est une réponse affirmative à l'énoncé « Mereka memakai busur panah traditionnel Mentawai ». Mereka memakai busur panah traditionnel Mentawai signifie « ils utilisent des arts traditionnels de Mentawai ». Dans ce discours, il y a le mot « pemberani ». Je répète, « pemberani » signifie « courageux », c'est-à-dire une personne qui a du courage. Le mot pemberani, pemberani signifie courageux, est placé après le mot mereka. Mereka signifie il pour exprimer la nature ou le caractère des enfants de la tribu Mentawai. Un autre exemple. Allez écouter d'autres exemples d'utilisation de mots qui exprime la nature ou le caractère. Penakut. Penakut signifie lâche, est une personne qui a un caractère craintif. Chris bukan penakut. Chris bukan penakut. Signifie Chris n'est pas un lâche. Penyabar. Penyabar signifie patient, c'est-à-dire une personne qui a un caractère patient. Sinta, seorang pemandu wisata yang penyabar. Sinta, seorang pemandu wisata yang penyabar. Signifie Sinta est un guide patient. Dans le festival Pesona Mentawai, ou en français, le festival d'enchantement Mentawai, il y a le festival de tir à l'arc traditionnel de Mentawai. Pendant le festival de tir à l'arc, des activités liées aux flèches traditionnelles sont organisées, notamment des compétitions de tir à l'arc et l'attraction de concocter des flèches empoisonnées. Avant de terminer apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Mereka memakai busur panah tradisional Mentawai.
Mereka sangat pemberani. Busurnya saja setinggi tubuhnya.
Iya, anak-anak itu berlatih memanah untuk berburu sejak kecil.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir!
Jangan pergi dari diriku. Tak sanggup harus hidup tanpamu. Karena jauh lebih indah bila kita bersama, seperti yang terjadi kemarin. Langkah demi langkah yang menyepi, membalut luka lagi yang ku tahan hingga kini. Habis sudah nafasku menyebut namamu. Takkan hilang cinta.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et ses enregistrements, dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicquiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons la chanson Kroncong intitulée Sampul Surat, chantée par Tania Dewi. Chers amis, la chanson Sampul Surat est une chanson originale de Kroncong composée par Ismail Marzuki. Cette œuvre est née à l'époque de la lutte de l'Indonésie contre le colonialisme. La chanson Sampul Surat raconte l'histoire d'une personne qui reçoit une lettre tant attendue. C'était incroyable à quel point il était heureux et voulait lire la lettre immédiatement. Mais à quel point son cœur était brisé, car tout ce qu'il a reçu était une simple lettre de motivation. Même si son cœur était déçu, la lettre de motivation était toujours conservée comme souvenir dans la vie. Mon cher Jouetard, voici Tania Dewi va chanter une chanson Kroncong intitulée Sampul Surat. Bonne écoute!
Hati ku rebut rejang.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.